I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 18.
Je vous invite à voir la parole de Dieu aujourd'hui dans la première lettre de Jean au chapitre 2, verset 18. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists. Par où nous savons que c'est la dernière heure. Et notre sujet est le suivant, un exposé sur l'Antichrist. Et l'apôtre Jean a parlé de l'amour pour le monde au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et il continue d'une manière presque inévitable avec ce verset 18 et ses informations concernant l'Antichrist, l'œuvre de l'ennemi de nos âmes. Et notre premier point sera le suivant. Nous allons donner une définition de l'Antichrist bientôt, mais le premier point, c'est quand est-ce que l'Antichrist apparaît? Avant de voir l'identité de l'Antichrist, l'apôtre Jean parle de quand. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'Antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists. L'apôtre Paul a écrit à Timothée, « Dans les jours derniers, ce seront des temps difficiles. » La dernière heure, les derniers temps, c'est là un thème qui est récurrent dans l'Écriture, dans le prophète Ésaïe, et il arrivera qu'au dernier jour, etc. Ce sont là des termes que nous voyons souvent, comme dans Ésaïe 2, verset 2. Et dans le Nouveau Testament, c'est bien clair que l'ère du Nouveau Testament est dans l'ensemble l'équivalent des derniers temps. C'est là la dernière heure. Nous pensons à cette période jusqu'à Christ et la venue de Christ, le Rédempteur promis, la période de l'Évangile, la période de l'Église, c'est là la dernière heure. Ainsi, l'apôtre Jean ne parle pas simplement des dernières années ou des derniers siècles, mais il parle de toute l'ère de l'Église. Et c'est là ce que nous voyons continuellement dans l'Écriture. Dans la lettre aux Hébreux, c'est pareil. C'est là la dernière heure. Et nous pourrions passer du temps à prouver ceci si c'est nécessaire. Mais nous ne pouvons pas remettre ces choses en question parce qu'il se réfère ici à toute l'ère de l'Église. Durant l'ère de l'Évangile, c'est-à-dire la dernière période de la terre, il y aura une opposition intense qui est attisée par l'ennemi de nos âmes et tout est combiné dans ce terme antichrist. L'antichrist, il y en a beaucoup, plusieurs, des manifestations, des représentations de l'antichrist durant l'époque de l'Évangile. Dans 2 Thessaloniciens et ailleurs, il est écrit que à la fin même, tout culminera en un grand mouvement ou en une personne. Mais ici, l'apôtre Jean parle de plusieurs antichrists. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'antichrist vient, il y a dès maintenant plusieurs antichrists, par où nous savons que c'est la dernière heure. L'étendue de l'opposition à Christ, si nous pouvons utiliser ce terme, cette intelligence, cette férocité de l'opposition à Christ qui est démontrée là, nous montre que c'est la dernière période de la terre, dit l'apôtre Jean. Et il continue en nous disant un peu plus par rapport à l'Antichrist. Qui sont ces gens, ces manifestations de l'Antichrist? Qu'est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils apparaissent pour nous? Et au verset 19, pour commencer, « Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. » Qui sont-ils? À quoi ils ressemblent? Beaucoup d'entre eux commencent là dans l'Église de Jésus-Christ. Non pas tous, que ce soit des individus auxquels on pense, il y a des individus qui sont des manifestations de l'Antichrist, mais il y a également des mouvements, comme par exemple l'Église catholique, et Je vais expliquer ceci dans un moment. Pourquoi est-ce que ceci peut rentrer dans cette catégorie d'une manifestation de l'Antichrist? Mais c'est là un mouvement qui a commencé dans un cercle d'églises qui croyaient dans la Bible. Et alors que les siècles ont passé, ils ont commencé avec ces hérésies. Au 4e siècle, 5e siècle et en particulier le 6e siècle, ils ont redéfini le christianisme à leur propre goût. Ils ont commencé à rajouter des traditions humaines, une couche après l'autre, qui contredisaient l'écriture même. Ainsi, ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et ceci est vrai pour les individus également, qui sont sortis d'entre nous. Peut-être nous pensons que ce sont des chrétiens qui professent la doctrine de la foi et confessent la foi, mais avec le temps, il est évident qu'ils ne le sont pas. Peut-être qu'ils ne sortent pas d'entre nous physiquement, mais dans leur doctrine. Ils polluent l'église dans laquelle ils sont et la ruine. C'est leur intention première que de faire tomber les églises et de les détruire. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'appartenaient pas réellement à l'église, ils n'étaient jamais convertis réellement, ils n'ont jamais compris ou cru dans la foi. Peut-être que c'était là leur opinion pendant un certain temps, peut-être qu'ils connaissaient intensément les doctrines de la foi, peut-être qu'ils se sont tenus pour ces doctrines, mais ce n'était pas leur conviction, leur opinion profonde qu'ils ont expérimentée par l'expérience même. Et avec le temps, ils ont changé ces choses qu'ils n'aimaient pas, et ils ont dilué ces choses, et ils ont suivi un autre chemin. Parce que s'ils avaient été des nôtres, alors sans aucun doute, ils auraient continué avec nous. Ceci ne parle pas de toutes les personnes qui quittent une église. Certaines personnes, parfois, quittent une église parce qu'ils sont rétrogrades et peut-être qu'ils vont revenir. Ou peut-être qu'ils quittent une église parce qu'ils ne sont pas d'accord avec une question plutôt mineure. Mais ils ne sont pas contre la foi. Ceci parle de cas qui sont extrêmes et qui abandonnent les doctrines fondamentales de la foi. C'est afin qu'ils soient manifestés que tous ne sont pas des nôtres et toute la situation sera évidente et claire. Ceci nous montre, avant de continuer plus loin, que ces valeurs sont si précieuses de croire dans une église régénérée. Pour être membre, il faut être régénéré. Dans notre tradition de baptiste indépendant, nous croyons que Dieu œuvre dans le cœur des croyants. Et c'est eux et eux seuls qui peuvent être admis comme membres de l'église. Mais beaucoup d'églises ou beaucoup d'églises presbytériennes croient que Dieu œuvre dans le cœur des croyants et de leurs enfants, et des enfants des enfants. Et ils sont baptisés en tant qu'enfants, et ils sont admis dans l'église en tant que membres, même sans être convertis personnellement à Christ. Et nous savons qu'il y a certaines églises presbytériennes qui sont d'accord avec nous et attendent que les gens se convertissent réellement avant de les accepter comme membres. Mais beaucoup d'églises presbytériennes n'acceptent pas cela. Elles disent non, ils sont chrétiens, ils font partie de l'Alliance et ainsi nous devons les traiter comme étant des chrétiens. Et il y a un grand danger en cela. Et vous pouvez le voir dans l'histoire. L'Église est composée des croyants et de leurs enfants. Et rapidement, ils deviennent adultes et beaucoup d'entre eux ne sont pas convertis. Peut-être qu'ils sont simplement des croyants de nom. Et ils sont à l'intérieur de l'Église et ces croyants de nom vont errer facilement et facilement accepter de mauvaises doctrines, des fausses doctrines. Et ils vont changer des choses dans l'Église. Et ainsi, vous voyez des grands mouvements presbytériens dans l'histoire de l'Église qui, en deux générations, ont complètement chuté et sont tombés. Ceci ne s'est pas passé dans toutes les églises, mais dans la plupart des églises presbytériennes, à cause de cette définition essentielle. Qui est un membre de l'Église? Le croyant. Nous n'allons pas aller dans les détails ce matin, mais dans notre tradition, ce sont les croyants uniquement, ceux qui sont convertis, et nous aspirons à évangéliser nos enfants, à les enseigner, mais nous ne pouvons pas dire qu'ils sont chrétiens avant d'être convertis eux-mêmes. Et ainsi, c'est bien mieux. De même pour les anglicans, si vous êtes sur la liste de paroisses, vous êtes un chrétien par définition, même sans être venu à Christ. Imaginez que c'est une église anglicane évangélique. La plupart d'entre eux ne le sont pas, mais certaines le sont. Ils croient dans l'évangile, mais dans ces églises, chacun a son mot à dire et chacun fait partie de l'église. Ainsi, l'église est une multitude mixte d'incroyants et de croyants. Et vous voyez que c'est très instable. Et ce n'est pas ce que la parole enseigne. Ainsi, nous parlons de ceci. L'Antichrist qui essaye toujours de trouver quelqu'un dans l'église et de souiller l'église. Et combien c'est important de croire dans une église régénérée. Et j'ai lu même dans des livres de théologie systématique de presbytériens où ils disent que dans la parabole du blé et de l'ivraie, le Seigneur a dit de les faire grandir ensemble. Et ils pensent que cette parabole parle de ceci. Mais non, le Seigneur explique aux disciples en disant que le champ dans lequel le blé grandit en même temps que l'ivraie, ce n'est pas une parabole qui parle de l'Église, mais du monde. Vous ne devez pas laisser le blé et l'ivraie grandir ensemble dans l'Église. Ce n'est pas ce que cette parabole veut dire. Certaines personnes disent « Oh, mais vous ne pouvez pas garantir que chacun que vous recevez comme membre de l'Église est clairement un croyant et un croyant authentique. » Non, nous ne pouvons pas garantir ceci à 100%. Mais nous aspirons à cela et nous faisons de notre mieux pour n'accepter que des gens qui sont réellement convertis. Et oui, bien sûr, nous allons faire des erreurs parfois. Mais eux disent que non, si vous ne pouvez pas garantir cela, alors pourquoi s'embêter à avoir une église de gens régénérés ? Imaginez que vous prenez cet argument, que vous l'appliquez à la sainteté. « Oh, je ne peux pas être entièrement pur avant d'arriver au ciel, alors pourquoi m'embêter à essayer de grandir dans la sainteté ?» Non, vous n'allez jamais donner cet argument. Et de même, vous ne pouvez pas donner cet argument avec l'Église. Ainsi, nous devons faire bien attention de recevoir dans l'Église uniquement des gens qui sont réellement, authentiquement convertis. Je mentionne ceci dans ce contexte. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Et nous devons faire de notre mieux pour que les gens soient réellement sauvés, ceux qui viennent dans l'Église. Comment est-ce que nous nous défendons contre les antichrists, les faux croyants qui vont essayer de changer les doctrines et de faire tomber l'Église? Il y a deux défenses principales et ces deux nous sont données par le Seigneur. La première chose est là au verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes choses. C'est là une image de l'Ancien Testament dans le livre de l'Exode quand Moïse a été inspiré à oindre avec l'huile Aaron et les prêtres. C'est là ce que l'onction signifie, c'est l'huile d'onction. Et les prêtres, les sacrificateurs étaient oints dans une cérémonie particulière, bien sûr, ceci est passé, c'est l'Ancien Testament. Mais également les rois étaient oints. Samuel a oint Saül, le roi. Et voici l'illustration ici. Vous avez reçu l'onction. Ce n'est pas une onction littérale. Vous n'avez pas reçu de l'huile, mais vous avez l'onction de la part du Saint, une onction spirituelle par Christ. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut dire par là ? Il se réfère ici à l'illumination du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux à la vérité quand nous sommes convertis. Vous avez été illuminés et vous savez, vous connaissez toutes choses. Non pas littéralement, mais nous connaissons toutes ces choses dont ce texte nous parle. Nous avons entendu parler du salut, nous connaissons Christ et le plan du salut, nous le connaissons lui. Nous connaissons les choses qui sont vraiment importantes et qui nous séparent des antichrists et des faux croyants. Il y a 2 jours, j'ai entendu parler de cette jeune femme, non pas de cette église, c'était un jeune croyant qui est allé dans une autre ville pour son travail le dimanche. Elle a essayé de chercher une église, il y avait une église réformée dans cet endroit, mais il louait un bâtiment. Elle est allée en vélo et l'a remarqué. Ça devait être une erreur, mais il n'y avait rien dans cet endroit, dans ce bâtiment. C'était un bâtiment qui était fermé, silencieux. Et alors qu'elle essayait de chercher l'adresse d'une autre église, quelqu'un est venu vers elle et lui a demandé « Vous cherchez cette église ?»« Oh, cette église ne se rassemble plus, mais nous, nous sommes juste en face, venez chez nous !» Elle s'est dit « Oh, j'ai pas le temps de trouver une autre église, je vais y aller, je vais accepter l'invitation. » Et elle est allée dans cette église, qui était soi-disant une église évangélique. Et ce qui se passait à l'intérieur, c'était un cours alpha. Et elle s'est assise, c'était un jeune croyant. Il y avait un groupe de personnes et on leur a montré une vidéo du pape. Elle trouvait que c'était très bizarre. Et ensuite, une personne après l'autre a parlé du christianisme. Et alors qu'ils ont parlé, elle a réalisé que c'était un christianisme sans la croix, un christianisme sans repentance. Ces gens donnent le réconfort, la joie, la paix. C'est là ce qu'ils offrent, mais il n'y a pas de message là. Pas de Christ, pas de croix, pas de repentance, pas de vie nouvelle, rien de ce genre. Et vous voyez, elle avait cette onction, elle connaissait la vérité. Et elle n'a pas reconnu ces choses importantes dans ce message. C'était un christianisme sans Christ. Un genre de christianisme très libéral, un substitut de christianisme. Et cette jeune femme s'est dit, mais c'est une hérésie. Tout ceci parle d'amour, mais ils offrent des choses qu'ils ne peuvent pas connaître sans la conversion, sans Christ, sans la mort expiatoire de Christ et la justification. C'est là ce que l'onction fait dans notre cœur. Vous savez que ce n'est pas la vérité, que ce n'est pas la doctrine pure. Et c'est là ce dont parle l'apôtre Jean. Vous avez reçu l'onction de la part du Saint et vous connaissez toutes ces choses fondamentales sont comme dans votre instinct parce que vous avez trouvé Christ réellement. Et il continue ensuite avec le deuxième point. Ce deuxième équipement que nous avons pour discerner la vérité du faux. Verset 21, je vous ai écrit. Non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Quand vous lisez ceci de manière superficielle, vous pensez que c'est une déclaration qui est évidente et qui n'est pas nécessaire. Nul mensonge ne vient de la vérité. Mais vous devez comprendre que c'est là un sens qui est très profond et particulier, qui est important pour chacun d'entre nous. Nul mensonge ne vient de la vérité. Ce que l'apôtre Jean veut dire par la vérité ici, c'est ce corps de doctrine qui constitue la doctrine chrétienne, la vérité. C'est là la chose la plus importante. Toute chose qui n'est pas en accord avec la vérité est un mensonge. Cet ensemble de doctrines qui font partie de la vérité. C'est souvent ainsi que l'apôtre Jean utilise ce terme. C'est là une règle pour interpréter ce passage. Quand vous réfléchissez à un enseignement, à une doctrine, quand vous lisez la parole pour vous-même, peut-être Hébreux chapitre 6, et à première vue, ceci vous donne l'impression qu'un chrétien peut perdre son salut. Est-ce que c'est là une bonne manière de comprendre ce passage ? Parce que ailleurs, la parole dit que mon salut est sûr et certain. Si c'est un salut réel et authentique, pour toujours je suis sauvé. Qu'est-ce que je lis ici dans Hébreux 6, que le salut peut être perdu, etc. Non, qu'est-ce que je fais alors ? J'amène ce passage et je teste ce passage par rapport à cet ensemble de grandes doctrines, la vérité. Ces doctrines essentielles de la foi. Et si ce passage ne semble pas être en accord avec ces doctrines, alors j'ai mal compris ce passage et je retourne en arrière, je relis ce passage à la lumière de ces vérités et alors je comprends. Oh oui, je suis dans l'erreur. Non, ce n'est pas ce que ce passage me dit. Il dit même l'opposé Et alors, je suis dirigée dans ma lecture de la parole de Dieu parce que je vois ces passages à la lumière de toutes ces doctrines essentielles de la foi, la vérité. Et c'est là ce à quoi l'apôtre Jean se réfère quand il parle de la vérité. Nul mensonge ne vient de la vérité, n'est en accord avec la vérité. Toute fausse doctrine, rapidement, sera évidente si vous la comparez à la vérité. C'est là une règle de base d'interprétation de la parole de Dieu, qui est définie de la bonne manière dans la confession de foi de Westminster et de Savoie, de la même manière. C'est là notre manière de détecter une hérésie, un mensonge ou une mauvaise compréhension de la parole. Nous comparons ces choses avec la vérité. C'est comme quelqu'un qui est sous et qui souffle dans le ballon et vous voyez qu'il a bu, ceci est évident, prouvé. De même, quand une doctrine est donnée, vous pouvez dire si c'est là une hérésie ou une vérité, parce que vous comparez ces choses aux doctrines essentielles, sûres et répétées si souvent dans la parole de Dieu, ces doctrines essentielles ensemble dans la vérité. C'est là la foi même. C'est là ce que vous utilisez pour comprendre chaque partie de l'Écriture. Je donne un autre exemple. Le mouvement de Pentecôte. Au début du siècle dernier, le mouvement de Pentecôte a commencé avec des gens, probablement des chrétiens authentiques, sincères, mais qui n'étaient pas bien enseignés dans l'Écriture. Ils ne connaissaient pas les règles d'interprétation de la parole de Dieu. Ils ne savaient pas que quand vous voyez un texte, avant de construire un château sur ce texte, vous comparez ce texte avec l'ensemble des doctrines pour voir si vous êtes dans le vrai. Et ils ont commencé à trouver des textes et ils se sont dit « Oh, nous devons parler en langue de nos jours ». Ils n'ont pas compris ce texte dans le contexte d'autres textes qui nous disent que c'était là pour une certaine période, pour un certain but. Et alors, ils ont commencé à dire « Oh, nous devrions faire ceci et cela » et ils ne savaient pas que une règle fondamentale de l'interprétation de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu interprète la parole de Dieu. Et ces passages qui peut-être sont un peu obscurs, nous devons les comprendre à la lumière des passages qui sont clairs. Et ils ont commencé à construire des doctrines qui étaient de grandes erreurs. Et ils ont rajouté ceci et cela. Peut-être qu'ils étaient de vrais chrétiens. Mais il y avait toutes sortes d'erreurs complexes et ils ont ouvert la porte aux charlatans et à ceux qui faisaient du spectacle parce que dès le début, ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas appliqué la règle de l'écriture même pour interpréter les textes. Certains chrétiens pensent que, oh, la Bible est si complexe. Certains groupes de chrétiens disent ceci, d'autres disent cela et nous ne savons pas où nous en sommes parce qu'il y a tant d'interprétations différentes. Non, nous ne devrions pas être dans l'obscurité si seulement nous suivons les règles mêmes de la parole de Dieu fidèlement, parce qu'il y a des hérésies qui ont été acceptées, parce que les gens ont négligé cette règle d'interprétation. Et j'aimerais lire dans Romains chapitre 12 au verset 6, est-ce que vous êtes posé des questions par rapport à ce verset quand l'apôtre Paul dit cela? Ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, soit la prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi. Si vous ne comprenez pas la signification de ceci, vous pouvez avoir une mauvaise impression et être totalement dans l'erreur. Et vous pensez que l'apôtre Paul dit que s'il y a des prophètes, bien sûr il n'y a plus de prophètes aujourd'hui, c'était là dans le temps du Nouveau Testament, avant que l'Écriture ne soit complète, quand il y avait encore un ministère de prophètes. Mais s'il y avait un prophète, vous pensez que l'apôtre Paul dit qu'il doit se tenir dans ses limites d'une certaine manière. Mais ce n'est pas la signification du texte. La prophétie, pour l'exercer selon la mesure de la foi. En grec, littéralement, c'est « selon l'analogie de la foi ».« Selon l'analogie de la foi ». En termes plus modernes, dans ce contexte, une meilleure traduction serait la suivante « selon la comparaison de la foi ». C'est là la signification de ce texte. « Pour l'exercer selon la comparaison de la foi. Est-ce que vous voyez ici que l'apôtre Paul dit exactement la même chose que l'apôtre Jean? Si vous êtes un prophète, toutes vos prophéties doivent être en accord avec la foi. Les règles de la foi, elles doivent être comparées à la foi. Dans ce terme grec, elles doivent être analogues à la foi. C'est là le principe à nouveau. Si un prophète enseignait quelque chose qui n'était pas en accord avec ce corps de doctrine, cet ensemble de doctrines que l'Église a déjà reçu de la part des apôtres, alors cette prophétie est fausse. Cet ensemble de doctrines est déjà là en étant la pierre angulaire et tout doit être comparé à cet ensemble de doctrines. C'est là la signification de Romains chapitre 12, verset 6. Si vous êtes un prophète, vous devez prophétiser selon la mesure, c'est-à-dire l'analogie, la comparaison de la foi avec un F majuscule. Et nous devons faire la même chose. Si vous êtes dans le vrai, dans votre compréhension de la parole de Dieu, prenez bien soin de connaître les doctrines fondamentales de la foi. Et je recommande souvent aux gens ce livre bien vieux, écrit par le puritain Thomas Watson. C'est un livre du XVIIe siècle, un corps de divinité, écrit dans un style plutôt moderne pour un puritain. C'est plutôt condensé par rapport aux autres puritains. Et le corps de divinité rassemble toutes les doctrines essentielles de la foi dont vous avez besoin et vous devez les connaître dans votre esprit. Tout jeune chrétien devrait lire un livre tel que le corps de divinité. Et ainsi vous connaissez ces doctrines essentielles de la foi qui ne peuvent pas être contredites, qui sont si claires et qui sont répétées tant de fois dans le Nouveau Testament et qui sont là clairement expliquées. Et c'est là votre référence. Tout doit être comparé à cela. La foi, votre règle d'interprétation de la parole de Dieu. Et avec cela, il y a également le fait évident que ces passages complexes doivent être interprétés à l'aide d'autres textes qui adressent le même sujet et qui sont moins compliqués. Peut-être que vous avez des amis qui ont d'autres points de vue sur l'eschatologie. Mais si nous parlons de ce mouvement du dispensationalisme par rapport au dernier temps est basé sur une mauvaise compréhension de cette règle d'interprétation de la parole de Dieu. Parce que les tout premiers dispensationalistes n'ont pas gardé cette loi. Ils ont lu le livre de l'Apocalypse, ils sont arrivés au chapitre 20, qui est un chapitre très figuré. Il y a un dragon. Ceci est figuré, une illustration. Il y a une grande chaîne, c'est là une image également. Il y a un puits sans fond, c'est une image. Et ce puits a un couvercle, c'est une image. Et au milieu de toutes ces images, il est mentionné 1000 ans. C'est une image également, tout est imagé dans ce texte. Mais eux, non, ils ont pris ce chiffre figuré, ce passage figuré complexe. Et ils ont utilisé ce terme 1000 ans et ils ont dit ceci, c'est littéral. Nous allons prendre ceci dans le livre de l'Apocalypse et nous allons rajouter toutes sortes d'autres écritures et passages. Et dans le livre de Daniel, où il est mentionné les choses des derniers temps, dans les prophéties d'Ésaïe, alors ils vont trouver les 1000 ans dans ces textes, un règne de Christ sur cette terre pendant 1000 ans. Et toutes sortes de choses sont rajoutées à cela. Et alors ce système devient très complexe, alors que tout a commencé là, où au lieu de comprendre ce passage difficile et figuré, au lieu de le comprendre à la lumière de passages clairs, le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé d'un règne de 1000 ans, il n'a jamais entendu parler de cela, jamais vous n'allez trouver ceci ailleurs dans un autre texte, uniquement dans ce passage d'Apocalypse 20. Et au lieu d'interpréter ceci à la lumière d'autres textes qui sont si clairs, ils ont pris ces choses littéralement. C'est une erreur simple, mais ceci a été transformé en enseignement et un mauvais enseignement. Bien sûr, ceci ne contredit pas les choses fondamentales de la foi. Ainsi, on pouvait être, bien évidemment, un chrétien authentique et croire dans cette doctrine du dispensationalisme. Mais c'est simplement un exemple d'une erreur dans ce domaine-là. Nous en arrivons au verset 22. « Qui est menteur si ce n'est celui qui nie que Jésus est le Christ ?» Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Et je me posais des questions par rapport à ce texte dans le passé. Celui-là est l'Antichrist. L'Antichrist est une manifestation de l'incrédulité dans une personne, dans un mouvement qui est contre Christ ou, souvenez-vous de cela, c'est important, ou à la place de Christ. Et c'est là l'Antichrist. L'Antichrist est soit contre ou à la place de Christ. Peut-être que c'est un enseignant qui est libéral et qui se dit chrétien. Peut-être que c'est un athée comme le professeur Dawkins ou alors un individu qui est contre Christ. Qu'en est-il des gens qui se mettent à la place de Christ? Comme le pape, il est à la place de Christ. Il est le vicaire de Christ sur cette terre, celui qui représente Christ, le substitut à Christ sur cette terre. Il parle de la part de Christ comme s'il avait son autorité. Dans la tradition dans laquelle il se tient, il déclare des doctrines et les écrit comme s'il avait l'autorité de Christ. Ceci, c'est aussi l'Antichrist d'être soit contre lui ou d'avoir pris sa position, sa place, et de se tenir à la place de Christ. L'Antichrist, cela signifie l'un ou l'autre. Ainsi, souvenez-vous de ces choses. L'Antichrist, dans le temps, je pensais que, oh oui, je peux voir que c'est une offense contre Christ, mais comment est-ce que ceci est une offense contre le Père? Comment est-ce que ceci nie le Père? Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils, au verset 22. Mais nous connaissons beaucoup de chrétiens libéraux extrêmes qui nient Christ comme étant le Fils de Dieu et un homme littéralement qui nie la mort expiatoire de Christ, son œuvre, qui nie son infaillibilité, qui nie qu'il est le Fils de Dieu, incapable de péché ou d'aucune erreur. Mais ils disent qu'ils croient dans le Père. Est-ce qu'ils sont contre le Père? Parce que l'Antichrist nie le Père et le Fils. Oui, Jean dit, oui, si vous niez le Fils, vous niez également le Père, peu importe ce que vous dites, et pour plusieurs raisons. Première raison, le Père accepte le Fils. Le Père a dit du ciel, « Voici mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, si vous niez le Fils, alors vous niez le Père. » Le Père a accepté le Fils dans les promesses, dans les prophéties. Il a prophétisé par les prophètes et l'a décrit dans de nombreux détails. Et si vous niez le Fils, alors vous niez le Père. Vous niez le Père d'une autre manière également. Vous niez le Père parce que le Fils est l'image du Père. Si vous ne l'aimez pas lui, alors il est impossible d'aimer le Père. Parce qu'il est l'image même des attributs de Dieu, dans sa perfection, dans son amour et en toute chose. Si vous êtes contre Christ, alors vous êtes contre le Père, sans aucun doute, parce qu'il est la manifestation du Père, l'image glorieuse de la personne du Père qui apparaît dans la chair. Ainsi, Jean dit ceci, et ceci inclut également tous les Juifs qui ne croient pas. Jean est bien conscient de l'antagonisme des Juifs contre Christ, les chefs des Juifs. Si vous n'avez pas le Fils, vous n'avez pas le Père et vous êtes un antichrist. Quelle pensée terrible, l'antichrist. Il y a des antichrists de nos jours, des gens qui étaient dans l'Église, des chrétiens libéraux, soi-disant chrétiens, mais qui nie la divinité du Fils ou le fait qu'il était réellement homme, qui nie son œuvre, sa souffrance, sa mort à la croix du calvaire. Lui qui est l'auteur de la parole de Dieu infaillible, il nie toutes ces choses. L'Église catholique qui prend la place de Christ, non seulement le pape lui-même, mais dans les soi-disant sacrifices et le blasphème de la messe, en prenant la place de Christ, en pensant qu'il faut l'Église, l'absolution et notre justice également dans l'Église catholique. À la place de Christ, ou peut-être je peux dire la BBC, n'est-ce pas également une manifestation de l'Antichrist ? Avec toutes ces choses qui promeuvent l'athéisme et qui mettent de côté le christianisme, n'est-ce pas une manifestation de l'Antichrist ? Dans notre société, ceux qui mettent en avant cette moralité alternative, les antichrists. Et vous pouvez voir tout ce mouvement scientifique humaniste qui s'assemble en un mouvement, en une personne. Non seulement ces jours sont la dernière heure, mais les jours derniers également. Chers amis, je dois conclure. Quand est-ce que l'antichrist viendra ? Dans toute l'ère, la période de l'Église, de l'Évangile, l'apôtre dit que les temps seront de plus en plus difficiles et les gens de pire en pire, de plus en plus méchants jusqu'à la fin. Qui est l'antichrist ? Nous avons vu sa définition. Comment est-ce que vous pouvez discerner ce qui est contre Christ ? Par cet ensemble de doctrines de la foi. Et c'est là notre règle première pour interpréter l'Écriture. Et avec ces choses, nous testons tous les passages de la Bible. Oh, j'espère que chacun d'entre vous présents ici, chers amis, vous n'êtes pas simplement là en ne connaissant pas les doctrines, parce que c'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'églises, des gens qui aimaient le Seigneur, mais qui ne connaissaient pas les doctrines. Et quand l'erreur est entrée, ils n'ont pas reconnu l'erreur, parce qu'ils ne connaissaient pas la foi contre laquelle il fallait tout tester et comparer. Et toutes les difficultés du passé sont entrées dans l'Église qui est devenue libérale contre Christ. Comment est-ce que nous discernons ? Par cet ensemble de doctrines et par l'onction qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Oh, gardez ces choses en vie, chers amis, lisez toujours les Écritures et soyez toujours en contact avec les choses essentielles de la foi. Connaissez-les dans votre esprit, soyez certains de ces doctrines principales, connaissez-les et parlez de ces doctrines à d'autres. Et alors nous avons cet équipement pour nous défendre, pour défendre l'Évangile et la parole de Dieu.